Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur les antennes de TV5 Monde de Radio France Internationale. C'est l'émission internationale réalisée avec notre confrère, le quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, nous allons anticiper plus exactement sur un événement qui va se dérouler dans exactement 11 jours. C'est l'élection présidentielle en Algérie. Nous recevons Amara Ben Younes. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du développement industriel et la promotion des investissements en Algérie. Vous êtes aussi, peut-être surtout, ça cite que nous vous recevons aujourd'hui, porte-parole du candidat Abdelaziz Bouteflika, le président sortant qui brigue un quatrième mandat. Et je vais avoir le plaisir de vous interroger avec Isabelle Mont du journal Le Monde et Sophie Malibaud de Radio France Internationale. Avant peut-être de revenir sur cette élection, il est peut-être inhabituel ou discourtois de recevoir un invité en lui disant qu'on pense très fort à un autre, en l'occurrence précisément à M. Bouteflika. La question est à la fois banale et très politique. Comment va-t-il?
Mais la fonction de la porte-parole, c'est de parler au nom de l'autre.
J'ai bien compris.
Donc je suis là pour parler au nom du président de la République, qui va bien. Il va bien, sa santé s'améliore régulièrement. Vous l'avez vu avec nous tous, avant-hier, il a reçu John Kerry, il a reçu l'émir du Qatar. C'est quelqu'un dont les fonctions mentales fonctionnent très bien. Il a un problème de rééducation fonctionnelle, il est en train de poursuivre sa rééducation et ça s'améliore de jour en jour, mais sa tête fonctionne très bien.
Alors, vous donnez ces informations alors que les images, autant le dire, sur des antennes qui, à nouveau, ont leur distance critique et leur regard personnel, on voit aussi, peut-être surtout, un homme affaibli. Est-ce qu'à 78 ans, il était le mieux placé en Algérie pour diriger le pays?
En tout cas, nous pensons que vu la situation actuelle qui règne autour de notre pays, nous pensons que c'est le président le plus à même de diriger le pays pour les 5 prochaines années. N'oubliez pas le pays dont on parle, l'Algérie, en Afrique du Nord, entouré de pays où il y a beaucoup de turbulences, beaucoup d'instabilité. Nous avons été pendant très longtemps...
De renouvellement démocratique aussi.
Pardon ?
De renouvellement également du personnel.
De renouvellement du personnel, peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes dans ces pays. C'est des problèmes qui nous concernent directement parce qu'ils touchent nos frontières.
Alors, avant de donner la parole à mes consoeurs, on va regarder ces quelques images et le commentaire à propos de cette situation et du poids des opposants dans cette campagne électorale.
Le 17 avril prochain, les Algériens choisissent leur nouveau président. Mais sera-t-il vraiment nouveau ? Candidat à sa propre succession, Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. Le voici lors du dépôt de sa candidature.
Je suis venu déposer officiellement ma candidature conformément à l'article 74 de la Constitution et conformément à la loi électorale.
Âgé de 77 ans, victime d'un accident cardiovasculaire l'année dernière, le président n'apparaît plus que très rarement en public. Sa campagne est largement assurée par son équipe. Grand favori, Bouteflika est soutenu par tout l'appareil d'État, le patronat, des syndicats et des artistes algériens, comme le suggère ce polémique clip de campagne. La société algérienne est partagée sur ce quatrième mandat. Alors, toujours en musique, d'autres artistes expriment leur ras-le-bol. Pour eux, Bouteflika n'incarne pas la stabilité, mais bien plutôt l'immobilisme et surtout le maintien des privilèges. Son principal adversaire, Ali Benflis, ancien Premier ministre, ancien ministre de la Justice, ancien directeur de campagne de Bouteflika, Ali Benflis est un homme du sérail. Aujourd'hui, il se présente en candidat du changement.
Le 17 avril prochain, la situation doit être réglée avec de vraies solutions et non pas grâce à la fraude. Sinon, la situation et les problèmes vont s'aggraver et ça, je l'ai compris.
Aucun des 4 autres candidats n'a de véritable chance de passer. Alors, face à ce scrutin joué d'avance, c'est l'appel au boycott. Pour la première fois, un mouvement de la société civile s'organise. Universitaires, jeunes, retraités osent descendre dans la rue et crier « Barakat, ça suffit » en arabe. Ces manifestations se multiplient dans le pays et sont largement relayées sur Internet. Elles sont toujours suivies d'arrestations, Pour l'instant, le mouvement reste minoritaire.
Voilà pour ces échos de la campagne. Je vous disais, nous recevons le porte-parole donc du président Bouteflika, Amara Ben Younes. Question de mes concerts de RFI et du Monde.
Hier, ce samedi, il y avait un meeting à Béjaïa, un meeting qui n'a pas pu se tenir comme prévu, lors duquel le Premier ministre devait intervenir.
L'ancien
Premier ministre, lui aussi, en tant que représentant du chef de l'État sortant. Meeting qui tourne à l'émeute. Vous n'avez pas sous-estimé un petit peu l'exaspération
de la population
dans cette campagne?
Non, mais très franchement, madame, est-ce que vous pensez que si réellement c'est un phénomène d'exaspération, il doit s'exprimer de cette manière? Nous sommes en période électorale. La période électorale, c'est un débat contradictoire. Il y a 6 candidats, il y a des gens qui sont pour tel ou tel candidat, mais le principe, c'est que c'est le peuple qui doit choisir. Donc moi, je suis étonné que même des médias justifient ces actes de violence, parce que ce sont des actes antidémocratiques. Empêcher un meeting de quel candidat que ce soit est un acte antidémocratique. Si ces gens-là sont réellement représentatifs de la société algérienne, du peuple algérien, pourquoi ont-ils peur alors du peuple, du vote algérien? Laissez le peuple algérien s'exprimer. Moi, je m'attends, très franchement, ou dans la classe politique ou les médias dénoncent ces actes. Parce que si ça se passe ici en France, si vous avez aussi un candidat qui a perturbé son meeting, qu'on l'empêchait d'aller faire un meeting, l'ensemble des médias, de la classe politique aurait dénoncé ça. Et en Algérie, on trouve le moyen non seulement de justifier, mais parfois même d'encourager ces actes de violence qui sont des actes antidémocratiques.
Au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez du mouvement Barakat à ce moment-là,
dont on parle dans le sujet. C'est un mouvement qui est contre le quatrième mandat. C'est son droit le plus absolu d'être contre le quatrième mandat. Mais l'expression de ce rejet doit se faire par les urnes, il ne peut pas se faire par la rue. Nous ne sommes pas dans un... Là où nous avons vu les rues algériennes, ce qu'elle a donné durant les années 90. Nous avons vu les changements par la rue qu'ils ont essayé d'imposer en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie. Nous ne voulons plus, nous, de changements par la rue. Nous voulons que le changement, si changement il doit y avoir, ou si les gens qui sont pour Bouteflika ou qui sont contre Bouteflika aillent voter, c'est tout.
Monsieur Ben Younes, il n'y a jamais eu de second tour à une élection présidentielle en
Algérie. Depuis 62, oui.
Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y en ait un cette fois-ci? Ou est-ce que beaucoup disent en Algérie que c'est une élection qui est jouée d'avance? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Non, vous savez, vous venez de montrer, il y a six candidats, c'était élection présidentielle. Parmi ces candidats, il y a le président Bouteflika. Ces 5 autres candidats connaissent parfaitement le système politique algérien. Ils sont dans la politique depuis au moins 30 ans. Pour les uns et les autres, s'ils ont fait confiance à ce processus électoral, il faut qu'on fasse confiance, qu'on laisse le peuple algérien voter. On verra bien ce qui sortira des urnes le 17 avril.
Il peut y avoir un deuxième tour?
Il peut y avoir un deuxième tour. C'est au peuple de décider s'il y aura un deuxième tour ou pas de deuxième tour.
Je ne sais pas
comment les Algériens vont voter le 17 avril.
Je reviens sur la question des manifestations. Une manifestation n'est pas forcément synonyme de violence. Or, l'état d'urgence a été levé. Il y a toujours interdiction, finalement, de rassemblement dans la capitale algérienne.
Oui, il y a
pas possibilité pour les sympathisants de l'opposition de s'exprimer dans la rue, même si ce n'est pas par la violence.
Ils s'expriment. Ils ont organisé des meetings la semaine dernière. Le Front du Boycott a organisé un meeting à Alger. Ils ont loué une salle. On leur a donné une salle. Le mouvement Barakat s'exprime depuis maintenant presque 2 mois, ils font leurs manifestations dans Alger, ils sont encadrés par la police parce qu'on ne peut pas laisser la capitale tous les samedis entre les mains des manifestants et bloquer toute la capitale. Ils manifestent, votre reportage l'a bien dit, ils ont dit que c'est un mouvement de protestation, mais ils ont dit que c'est un mouvement minoritaire, c'est un mouvement qui ne rassemble pas, c'est un mouvement qui n'arrive pas à mobiliser. Leur stratégie maintenant, c'est une stratégie plus médiatique que politique. Ils vont dans les grands rassemblements pour chahuter les grands rassemblements. Ils utilisent en fait nos rassemblements, dans lesquels il y a beaucoup de monde qui viennent, pour venir chahuter, s'exprimer. Ils ont toutes les manifestations qu'ils ont organisées, vous avez suivi Alger, ils n'ont jamais pu rassembler plus de 30 personnes.
Ça se joue aussi sur les réseaux sociaux, monsieur le ministre.
Oui, ça se joue sur les réseaux sociaux, mais la réalité, c'est le terrain.
La réalité,
c'est pas
sociaux.
Facebook qui va voter, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont voter, c'est pas Internet qui va voter, c'est le peuple algérien qui va voter. Effectivement, quand on sait comment ça se passe maintenant, les réseaux sociaux, nous savons qui sont derrière les réseaux sociaux, nous savons tous les faux profils qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Vous savez très bien, madame, que n'importe qui d'entre nous peut avoir 50, 60 profils à aller sur Internet et faire ce qu'il a envie de faire sur Internet. L'essentiel pour nous, nous disons c'est bien Facebook, mais c'est mieux le terrain.
Alors, vous nous disiez il y a quelques instants que le président allait bien, enfin qu'il qu'il se rétablissait, le président Bouteflika. Il a fallu changer, hein, on peut le rappeler ici, la Constitution. Et vous savez ce qu'on entend, Bouteflika, président à vie. Face à ce genre d'approche ou de portrait sur un homme qui était affaibli, comment est-ce que l'on réagit? Comment est-ce que vous réagissez vous-même?
Ah, vous savez, M. Dessin, ici en France, vous avez eu la limitation de mandat il y a moins de 20 ans. Mm-hmm. C'était des septennats renouvelables.
On a changé la Constitution.
On ne peut pas dire que la France n'était pas un pays démocratique avant la limitation des mandats.
Absolument.
Donc pour moi, personnellement, je dis que...
Mais l'Algérie a fait le chemin inverse.
Oui, mais...
En France, on pouvait faire autant de mandats, c'est maintenant limité à deux. En Algérie, c'était deux mandats et maintenant c'est à vie.
Mais
quoi.
Très franchement, est-ce que c'est vraiment un critère de démocratie
le nombre
de
mandats? Je vous pose la question,
monsieur. Madame Merkel vient d'avoir un troisième mandat. Les Anglais n'ont pas de limitation de mandat. Les Italiens n'ont pas de limitation de mandat. C'est une culture américaine, la limitation de mandat, qui commence à arriver. Moi, très franchement, sur le plan personnel, ça ne pose aucun problème. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. L'essentiel, c'est la manière avec laquelle on arrive au pouvoir. Est-ce qu'on arrive d'une manière démocratique ou pas? Maintenant, limitation de mandat, Monsieur le Président Mitterrand a fait deux septennats de 14 ans. Il aurait pu faire encore un troisième. Et c'était un pays démocratique. On ne peut pas dire que la France n'était pas un pays démocratique avant qu'il y ait limitation de mandat.
Mais vous savez que le monde entier regarde toujours avec beaucoup d'étonnement lorsqu'on change la Constitution sur le nombre de mandats aussi.
Pardon ?
On regarde toujours avec un peu d'étonnement ou de suspicion quand un pays change sa Constitution pour permettre comme ça le genre
Oui, mais monsieur, c'est le peuple algérien qui a voté, qui a décidé de changer sa Constitution. Si le peuple algérien veut limiter les mandats, il limite. S'il avait voulu refuser cette constitution, il l'aurait refusé.
On a appris très tardivement, donc finalement, que Bouteflika proposait sa candidature pour un quatrième mandat. Mais pour quelle raison il le fait? Lui qui avoue lui-même dans sa lettre, la lettre qu'il a adressée au peuple algérien, qu'il avait perdu une bonne partie de ses capacités du fait de la lourde tâche qui lui incombait depuis un moment.
Vous savez, madame, j'ai expliqué tout à l'heure la situation dans laquelle vit notre pays. C'est une chose peut-être qui est très difficilement compréhensible à l'étranger. Mais quand on a vécu les moments dramatiques que nous avons vécu durant les années 90, nous connaissons parfaitement le prix de la paix et de la stabilité. C'est un pays qui ne veut plus repartir en arrière.
Nous sommes convaincus. Il n'y a pas d'homme.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, madame. Et nous sommes convaincus, nous, que le président Bouteflika, avec l'expérience qu'il a acquise ces dernières années, c'est le plus apte à diriger le pays dans ces années de turbulence. C'est pour ça que nous avons choisi, nous, personnellement, nous, notre parti, d'appuyer la candidature de Bouteflika. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'autre homme. Ils sont 6 candidats. Nous disons que pour nous, c'est le meilleur. C'est le plus apte actuellement. Ils ont 6 candidats, le peuple algérien a 6 candidats en face de lui. On verra bien qui il va choisir.
Et c'est lui qui tirera les ficelles par la suite, ou son frère, Saïd Bouteflika, par exemple,
c'est incroyable, cette affaire de frère du président. Madame, vous n'avez pas à faire une république bananière. Si nous sommes en train de parler de l'Algérie, c'est un grand pays qui a des institutions démocratiquement élues, stables, sérieuses, solides. Ce n'est pas le frère du président qui va gérer l'Algérie, c'est le président qui gère et qui dirige ce pays. Mais je remarque une chose importante, c'est que dans toute cette affaire de démocratie, en fait, qu'on veut nous imposer, que ce soit par les réseaux sociaux ou de l'étranger, il ne faut pas que le candidat se présente, il ne faut pas que Bouteflika se présente. On dirait que c'est ça l'unique critère de la démocratie dans ce pays.
Il a juste l'air à bout de force.
Pardon ?
Il a l'air à bout de force. C'est simplement qu'il a l'air à bout de force.
C'est votre impression, madame. Vous demandez,
les images en attestent.
Posez la question à M. John Kerry qui l'a reçu avant-hier. Vous pensez que s'il était à bout de force, il va recevoir un secrétaire d'État américain? Vous pensez que ce secrétaire d'État américain, s'il a vu un président à bout de force, il ne le dira pas? Non. Vous n'êtes pas professeur de médecine, madame.
Donc vous estimez justement que le président Obama, qui vient de passer en Algérie, cautionne donc la candidature?
Non, nous ne cherchons pas à être cautionnés par qui que ce soit, madame. La seule caution que nous cherchons, c'est la caution du peuple algérien. Nous voulons que le peuple algérien sorte voter massivement le 17 avril prochain, et de préférence, nous faisons campagne pour qu'il vote pour notre candidat.
Isabelle Mandreau.
Qu'est-ce qui vous fait dire que si ce n'est pas le candidat Bouteflika qui l'emporte, l'Algérie va connaître une période de turbulence comme par le passé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Certes, il y a une histoire douloureuse en Algérie, mais ça ne sera pas la même chose. Enfin, je veux dire, s'il y a des candidats qui se présentent contre lui, on n'est plus dans les années 90.
Je dis que pour nous, c'est le plus à même, le plus apte pour diriger.
Vous avez parlé
nous
de
considérons,
stabilité.
Bien sûr,
face à une menace,
bien sûr, nous considérons que c'est un pays où il peut y avoir de graves dérapages. La frontière
de quelle
avec
nature,
la,
de
la frontière
terroriste, avec, par exemple.
Bien sûr, essentiellement.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une menace cette année?
Il n'y a pas d'autre type de dérapage que le dérapage des terroristes. Nous voyons la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye. Le dernier acte terroriste que nous avons vécu, ce sont des terroristes qui sont partis de la Libye vers le Mali pour venir nous attaquer. Nous avons des problèmes de terrorisme avec la frontière tunisienne.
Vous dites que le meilleur rempart contre le terrorisme, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Bien sûr, nous sommes persuadés que c'est le garant de la stabilité et de la paix dans notre pays.
Mais revenons sur une menace. L'attaque terroriste n'a pas été empêchée sur ce site gazier. Et la façon dont elle s'est résolue, manifestement, n'a pas plu à tout le monde, puisqu'il y a quand même eu 30 38 otages qui y sont passés.
Oui, mais madame, vous savez, nous avons affaire au plus grand pays d'Afrique, 5 fois plus grand que la France, 2 400 000 km². Vous pensez que l'armée algérienne peut surveiller morceau par morceau tout le territoire national? La réaction de l'armée algérienne a été saluée par le monde entier, à commencer par M. François Hollande, par Obama, par David Cameron, parce que nous savons.
Il y a eu des réserves sur la façon
normal,
dont la prise d'otages s'est dénouée.
Mais c'est normal, nous savons qu'il ne faut pas négocier avec ces gens-là. Nous sommes le pays qui est à la pointe de la lutte antiterroriste. Nous sommes le premier pays au monde à dire aux pays occidentaux de ne pas payer de rançon pour les terroristes. Nous avons réglé ce problème. Le monde entier a salué la manière avec laquelle et la rapidité avec laquelle nous avons réglé ce problème.
Monsieur Benyounès, vous mettez en avant l'argument de la stabilité, qui est un argument qui est mis en avant par tous les partisans du président. Les opposants disent au contraire qu'il est devenu un facteur d'instabilité, puisqu'on ne sait pas, compte tenu de son état de santé, s'il pourra finir même son 4e mandat. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous prenez en compte aussi, l'inquiétude du peuple algérien vis-à-vis de la gouvernance du pays?
Question d'Isabelle Mandro.
Nous comprenons parfaitement qu'il y ait des agents qui sont contre Bouteflika. C'est normal, c'est ça la démocratie. Nous sommes en période électorale. Mais laissez le peuple algérien décider et voter. Ces gens-là qui disent qu'au cas où quelque chose arrive au président Bouteflika, vous pensez que rien ne peut arriver à M. François Hollande, à M. David, à M. Obama? Tout peut arriver dans la vie. Il y a des institutions, il y a une constitution, il y a une loi qui prévoit tout. Tout ça, si le poste de président de la République est vacant, la Constitution elle est très claire comment cette vacance sera assumée et comment après les élections se dérouleront.
Le pouvoir était vacant pendant une longue période.
Il n'a pas été vacant. C'est le président de la République qui est tombé malade, comme M. Jacques Chirac est tombé malade, comme n'importe quel président du monde peut tomber malade. Il s'est fait soigner, le gouvernement continue de fonctionner. Je suis membre du gouvernement. Oui, madame, c'est le conseil du gouvernement. Et 3 mois, donc on l'évacue. Qu'est-ce qu'on fait?
Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'un président.
On a besoin d'un président. On a besoin de
Mais pendant
madame,
3 mois, on peut
lui
s'en passer.
Mais s'il est malade, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si maintenant François Hollande tombe malade, vous allez le changer?
Mais il ne fait pas campagne.
C'est quand même incroyable cette affaire. Un président de la République n'a pas le droit de tomber malade.
Ce qui nous étonne, c'est que le président, on ne le voit pas et qu'il ne fasse pas campagne. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça qu'on insiste de cette façon devant vous qui êtes son porte-parole, M. Benyounès.
Non, mais vous savez, monsieur, le Conseil constitutionnel a réglé cette affaire de maladie. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Pour nous, Algériens, ça nous suffit. Nous n'avons pas besoin, si vous voulez, d'autres formes de caution venant de l'étranger, de quelque part. Nous, les choses sont très claires. C'est le président, de toute façon, c'est le peuple algérien qui va décider.
C'est vrai.
Les gens disent que le président est malade. Ils disent qu'il est handicapé. Ils disent que le peuple ne veut pas de lui. Ils disent qu'ils veulent le changement. Quand on laisse le peuple s'exprimer, on va voir le peuple ce qu'il va dire.
On va faire une pause.
Il reste 11 jours, madame. Dans 11 jours, le peuple algérien va s'exprimer.
Moi, c'est tout simplement. Donc, cette élection va avoir lieu dans une dizaine de jours. Certaines voix autorisées, comme un ancien Premier ministre, Sidi Ahmed Razali, disent qu'aucune élection n'a jamais été libre en Algérie.
Je pense qu'il parle des. Il a déjà, lui, organisé des élections.
Mais déjà, ça n'a jamais été une élection, n'a jamais été libre.
Il a quitté le gouvernement.
Non, mais on ne va pas parler de lui, mais
c'est ces élections. Il a quitté le pouvoir depuis 22 ans. Il a quitté le pouvoir depuis 22 ans. Moi, je l'ai toujours dit, les élections, ce ne sont pas des élections qui sont transparentes à 100%, démocratiques à 100%, mais chaque étape, nous faisons des progrès en matière de transparence, en matière de gestion des élections, et je vous garantis que ces élections vont être des élections transparentes et libres. Le peuple algérien, c'est lui seul qui sera souverain pour choisir son président.
Parlons franchement, M. Benyounès. Certains disent aussi qu'il y a fraude dans les élections en Algérie. Je pense à M. Ali Benflis, qui le dit très clairement.
Il a été chef du gouvernement, il a organisé des élections.
Exact, mais donc il connaît aussi le système peut-être, mais beaucoup le disent. Donc qu'est-ce que vous allez donner comme garantie pour que ces élections soient libres et transparentes, sachant en plus que les observateurs européens ne viendront pas?
Donc si on parle, de toute façon madame, c'est pas les observateurs européens qui vont donner un gage de transparence ou pas à ces élections. Nous organisons nos élections. Le candidat dont vous avez parlé, s'il est candidat, c'est qu'il croit quand même un peu à ces élections. Lui-même est candidat à cette élection. S'il était persuadé qu'il allait y avoir fraude, comme vous le dites, il ne serait pas présenté à ces élections. Chaque fois qu'il y a les élections en Algérie, c'est toujours la même chanson qui revient d'un certain nombre de partis politiques, d'opposants qui parlent de trafic électoral. Et ces mêmes élections, ces mêmes personnes qui boycottent.
Le choix, c'est le boycott ou l'élection avec
madame,
des fraudes.
Si vous suivez bien les élections en Algérie, tous les partis qui boycottent ont participé aux dernières élections de 2012. Comment se fait-il que les élections de 2012 étaient transparentes et celles de 2014 ne le sont pas?
Alors, je vous propose, merci donc pour ce premier regard sur la campagne, sur cette élection qui va venir. Nous recevons Amara Benyounès, ministre et porte-parole du candidat et président de l'Élysée Bouteflika. Nous allons faire sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 un point de l'actualité et on vous retrouve tout de suite.